Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. C'est en début de semaine prochaine que l'application Stop Covid devrait être disponible en France. Après le feu vert du Parlement, il y a 2 jours, cette application qui sera téléchargée sur son smartphone, qui doit permettre d'identifier les personnes ayant pu être en contact avec un malade du coronavirus. C'est un outil que l'exécutif vante, mais c'est un outil qui pose des questions quant au respect des libertés. En effet, quelles données vont être récoltées par l'application? Qui pourra avoir accès à ces données? Voilà des points qui nourrissent de fortes inquiétudes du côté des détracteurs de Stop Covid, qui n'hésitent pas à comparer l'application à un bracelet électronique. Bref, quelles doivent être les limites au nom de la lutte contre le Covid-19? Voilà notre débat ce soir.
RFI.
Et nos 3 invités par téléphone. Philippe Bas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sénateur du Parti Les Républicains de la Manche, président de la Commission des lois, président du comité de suivi de l'état d'urgence sanitaire. Éric Filliol, bonsoir.
Bonsoir.
Expert en cryptologie et virologie informatique, vous enseignez à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne Sud et à l'Université de Moscou. Et puis Kamel Agi, bonsoir.
Bonsoir.
Doctorant en droit à Panthéon Paris 2 Assas, chercheur affilié à l'Information Society Project de Yale aux États-Unis. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation des RFI. D'abord, avant d'évoquer les nombreuses questions évidemment que Stop Covid soulève, est-ce qu'on peut présenter cette application? Parce qu'en France, on en entend beaucoup parler quand même depuis plusieurs semaines. Ça y est, donc elle est sur le point d'être lancée. Concrètement, je m'adresse à vous, Philippe Bas, qui êtes le président du comité de suivi de l'état d'urgence sanitaire. En quelques mots, comment est-ce que cette application Stop Covid va fonctionner? Quel va être son principe?
Le principe, c'est que sur votre téléphone portable, votre smartphone, une application rentre en contact avec le téléphone portable d'un inconnu qui est à côté de vous pendant au moins 15 minutes à moins d'un mètre. Cet inconnu se révèle quelques jours après porteur du virus, et grâce à cette application, alors que vous ne vous connaissez pas, vous recevrez l'information que vous avez été en contact au moins un quart d'heure avec une personne qui se situait à moins d'un mètre de vous et qui le virus Covid-19. À ce moment-là, vous pouvez aller vous faire tester, vous prévenez votre famille. Et donc, l'idée des promoteurs de ce projet du gouvernement, tel qu'il nous l'a présenté, c'est d'ajouter une sécurité supplémentaire pour éviter que quand on est contaminé, on l'ignore trop longtemps, parce que c'est pendant cette période où on l'ignore qu'on risque soi-même de contaminer les autres.
Alors, d'abord, ça sous-entend qu'il y a eu les tests nécessaires, donc pour identifier déjà la personne malade, à côté de qui cette personne justement qui se connecte peut avoir été en contact.
Ça a été un grand problème pendant des semaines, depuis le mois de mars, et c'est un problème qui est aujourd'hui résolu. La capacité de faire des tests aujourd'hui a été portée à plusieurs centaines de milliers de tests par semaine, qui ne sont d'ailleurs pas utilisés en ce moment parce que le virus circule moins vite. Donc ce problème-là, on peut considérer qu'il est globalement réglé, mais il y a beaucoup d'autres problèmes qui ne le sont pas. Par exemple, le nombre de personnes qui téléchargeront cette application a de forts risques d'être limité. Puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de smartphone ou qui ne se savent pas servir du smartphone pour les applications. Puis il y en a d'autres qui sont très inquiets du système et qui disent « moi, en aucun cas, je m'inscrirai parce que je ne veux pas qu'on puisse atteindre mes données personnelles ». On est moins regardant parfois pour toutes ces exploitations commerciales de nos données personnelles, mais là, il y a eu un aspect de fixation. Les gens sont très, très vigilants, alors même que je crois que de bonne foi, avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le gouvernement a cherché à restreindre tous les risques d'un usage détourné de ces données. Mais il reste que du point de vue du bon fonctionnement de ce système, si peu de gens l'ont, faut pas croire que vous allez avoir une très grande sécurité en l'appliquant vous-même. D'autant plus qu'il y a des gens qui vont l'avoir, mais qui ne sentiront pas qu'ils sont malades, ne seront jamais testés alors qu'ils ont pu vous contaminer. Et puis, il y a aussi, à l'inverse, des situations où vous étiez dos à dos, ou bien vous étiez l'un et l'autre avec un masque, par exemple en consultant un médecin ou un autre soignant, et où on vous signalera, parce que vous aviez chacun l'application, que vous avez passé un quart d'heure avec de très près avec quelqu'un qui était porteur du virus, mais il y avait un obstacle matériel à ce que vous soyez contaminé, mais vous ne saurez pas parce qu'on n'a pas voulu mettre de données personnelles sur le système, autre qu'un identifiant qui vient de votre smartphone, vous ne saurez pas quand, à quelle heure, avec qui. Vous saurez juste que vous avez été en contact, et si ça se trouve, ce contact était parfaitement anodin, sans danger, mais vous allez vous précipiter pour vous faire tester. Alors, dans certains cas, vous ferez tester pour rien, et dans d'autres cas, vous n'allez pas vous faire tester alors que vous avez été vraiment en danger. Du coup, au fond, ce système, ça peut faire l'appoint, il faut lui laisser sa chance. Il y a un gros risque, néanmoins, qu'il se mette en œuvre à un moment où on a beaucoup moins besoin de lui qu'il y a quelques semaines. Mais au moins, on se dit, si de nouveau on a une épidémie, ou si celle-ci repart dans quelques mois, on aura un nouvel instrument à notre disposition, et peut-être bien que ce sera utile.
Alors, merci pour cette réponse détaillée, Philippe Bas. Je me tourne vers vous, Éric Filliol, sur le fonctionnement de l'application. Vous qui êtes expert en cryptologie, sur le fonctionnement, parce qu'il y a des doutes, à quel point l'application est capable de détecter un contact dit à risque, justement, entre deux personnes. Le gouvernement affirme que l'application détecte 75 à 80% des personnes qui sont à proximité dans un rayon d'un mètre pendant plus de 15 minutes. Quelle crédibilité, justement, technique on peut avoir par rapport à cette présentation de l'application Stop Covid?
Déjà, ce qui vient d'être dit est on ne peut plus pertinent. C'est d'abord deux personnes proches à 15 centimètres, pendant 15 minutes, ça ne veut pas dire qu'ils s'affecteront. Donc la pertinence des données risque de, peut être remise en question, et donc ça risque de bruiter considérablement les données à exploiter. Le problème, il est alors, je suis pas épidémiologiste, donc je pourrais pas vous dire si même les données débruitées, ça permettrait de lutter efficacement. Là, il y a des spécialistes plus compétents. Moi, ce qui m'inquiète, c'est d'abord, effectivement, le problème des données personnelles.
C'est la grande question, on va dire. C'est la question qui est au cœur de ce débat.
Voilà. Mais déjà, pour la télécharger, il faut obligatoirement aller sur deux plateformes américaines. Apple. Et
et Google.
Google.
Les deux donc qui vont héberger cette application pour aller télécharger effectivement à partir d'Apple.
Ce qui est aberrant, c'est que de facto, les gens qui naturellement sont inquiets déjà donnent des informations. Parce qu'il faut savoir que quand vous allez télécharger l'application, vous devez avoir un compte. Donc vous devez vous enregistrer. Donc il y a déjà eu toute une collecte préalable de données. Une application, alors cette application fonctionne a priori sur le protocole dit Robert, un protocole cryptographique. Le problème, c'est que il faut pas voir la cryptographie seule. C'est un peu ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est la porte blindée sur un mur en carton. Le problème, c'est que votre mur, s'il n'est pas solide, il est de nature, a donné énormément de données. Je vais prendre deux exemples. Ce qu'il faudrait, c'est pas tellement regarder le protocole cryptographique, moi qui déjà me gêne parce que vous avez des serveurs, on ne sait pas très bien où ils sont. Les clés cryptographiques sont contenues par ces serveurs. Alors, je veux bien que la publication scientifique a été faite suppose que les gens qui gèrent le serveur sont des gens bienveillants, admettons. C'est déjà il faut vraiment être confiant. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'une application, c'est aussi un code. Ce code, il est fabriqué de telle sorte qu'il va avoir accès à d'autres données. Il faudrait s'assurer que ce code ne communique pas avec Google ou Apple. Quand on analyse très régulièrement des applications, et je ne parle pas de la fonction, mais de l'application, du support lui-même, il y a énormément de fuites de données. Et ensuite, cette application nécessite d'ouvrir le protocole Bluetooth. Or, moi, quand j'étais militaire, on avait fait une expérience. Ce protocole Bluetooth, c'est un rayonnement qui, quand vous scannez, il suffit que les gens ouvrent le protocole Bluetooth et fassent scan, et ben ils ont la liste de tous les appareils qui sont dans un certain périmètre.
Alors que le gouvernement explique que finalement le Bluetooth, ça permet d'éviter la géolocalisation et que c'est une protection finalement justement par rapport à nos données.
On a fait des expériences, on a fait des antennes. Alors, on a fait des antennes améliorées parce que l'ARCEP limite à 100 mètres les matériels. Mais c'est simple, on a fait une antenne, ce qu'on appelle une antenne de Tipiagi. On a pris une boîte de Nescafé ou de Riz-Corée. On l'a bidouillé. On arrivait à capter en environnement urbain du Bluetooth à plus de 400 mètres. Et quand vous faites, et tout le monde peut le faire, vous faites un scan Bluetooth, vous avez quoi? Vous avez souvent le nom et le prénom de la personne, parce que les gens ne sont pas vigilants, ils renseignent ces informations. Mais à minima, vous avez tout simplement ce qu'on appelle l'adresse MAC, c'est en gros un peu l'adresse physique de votre téléphone. Donc en réalité, il faut avoir une vision renseignement. Il n'y a pas que la crypto, cette fameuse porte blindée sur un mur en carton, mais il faut avoir tout un contexte général. Or, dès le départ, vous avez Google et Apple qui, par l'analyse de trafic, par l'analyse d'activité du téléphone, par la géolocalisation, parce que lui, il géolocalise. Donc, si vous voulez, on est en train de fournir énormément d'informations et à travers un système qui, par nature, au-delà de l'application, est dans un environnement qui fournit énormément d'informations.
Éric Filliol, les données seront toutes effacées dans les six mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire. C'est Cédric O, le secrétaire d'État en charge du numérique, en charge de ce projet Stop Covid, qui l'affirme. Vous n'y croyez pas, donc ? C'est impossible.
De toute façon, déjà, vous avez des informations, des serveurs qui sont, localisés dans différents pays. Puisque parmi les données cryptographiques, et je me réfère encore une fois à la publication scientifique sur le protocole Robert, vous avez un certain nombre de codes, notamment les codes pays. Ça veut dire, si vous voulez, que vous avez des serveurs à différents endroits, aura-t-on l'assurance que tout le monde jouera le jeu. Maintenant, admettons, je veux bien croire, si vous voulez, que le gouvernement respectera sa parole. Le problème, c'est que vous aurez l'application dans sa fabrication, aura laissé fuiter des tas de données, et je peux vous dire que Google, à travers les milliards de données qu'il collecte, lui sera capable de faire de la désanonymisation, de retrouver les gens et d'extraire des données. Parce que le problème d'une donnée, c'est à partir d'une donnée brute, c'est de fabriquer du renseignement. Et Google et Apple ont cette capacité parce qu'ils ont toutes nos informations, c'est ce qui a été dit. Effectivement,
mais en même temps, comment le gouvernement qui propose cette application pouvait faire autrement, sachant que Google et Apple sont quand même les géants, certes, du numérique, mais qui hébergent cette application. Si on veut proposer une application téléchargeable sur smartphone, ça doit passer par Google et Apple. Il n'y a pas d'alternative possible, si ?
Non, quand j'installe les applications que je choisis soigneusement sur mon téléphone, je ne passe pas par ces deux plateformes. Je vais télécharger ce qu'on appelle un fichier APK, en tout cas pour Android. Là, sauf erreur de ma part, je crois que ce n'est pas possible. Moi, j'aurais aimé que sur le site du gouvernement, on puisse dire, si vous n'avez pas confiance en Google et Apple, télécharger l'APK. L'APK, à ce moment-là, moi, je vais l'analyser pour voir, par exemple, est-ce qu'il n'y aura pas une collecte de données au niveau, non pas du protocole, mais au niveau de l'application et de son support et de ses interactions avec le téléphone.
Et Éric Filliol, on va passer la parole à Kamel Hadji pour évoquer finalement les questions de droit que cette collecte de données peut soulever. Kamel Hadji, doctorant en droit à Panthéon Paris 2 Assas, justement, comment éviter une récupération des données via l'application Stop Covid, comme l'évoque Éric Filliol. Est-ce qu'il aurait fallu, eh bien, finalement, que cette application fasse l'objet d'un texte législatif, selon vous ?
Tout d'abord, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être expliqué par M. Filliol. Effectivement, il faut bien se rendre compte que malgré toutes les précautions qui ont été prises par le gouvernement et par les équipes techniques qui ont géré le développement de cette application, le propre de l'informatique, c'est d'être faillible. Donc on n'est jamais à l'abri que, avant même le lancement de l'application ou dans les 3-4 mois qui suivent le lancement de l'application, on se rende compte que des données ont fuité, que des dysfonctionnements ont permis la réidentification de certains utilisateurs. Donc il faut, à mon sens, que le législateur s'empare de cette question, parce que la stratégie du gouvernement, et en particulier de M. Cédric O, qui est de lancer cette application pour permettre aux gens de détecter des éventuels cas de contamination ou de contact avec des personnes contaminées, elle fait face à un vrai obstacle, c'est celui de la confiance. Or, la question de la confiance, elle ne peut pas être réglée uniquement par des questions techniques auxquelles le grand public ne maîtrise pas. Elle ne peut être réglée que par une intervention juridique. Et il faut donc permettre aux législateurs de renforcer exceptionnellement le régime juridique applicable des données de santé.
Concrètement, que Stop Covid, justement, rentre dans un cadre législatif ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut aller assez loin. Il faut exclure, je pense, les données qui sont collectées dans le cadre de l'application Stop Covid. Il faut les exclure du commerce. C'est-à-dire que le Code civil nous permet d'ores et déjà de considérer que, donc là, c'est l'article 16-1 et suivant du Code civil, cet article prévoit que les éléments et produits du corps humain sont exclus du commerce parce qu'on cherche à protéger la dignité humaine. Je pense, c'est ce que j'ai plaidé dans le cadre d'une tribune publiée dans Le Monde, que cette qualification d'éléments et produits du corps humain peut être utilement étendue aux données personnelles qui sont collectées dans le cadre de cette application. C'est-à-dire que concrètement, on va pouvoir interdire la diffusion, la transmission des données à des parties tierces, et on va pouvoir éventuellement créer un régime de sanctions applicables. Je pense que ce genre d'intervention utile, soit de la part du législateur, soit de la part du juge, peut être de nature à renforcer la confiance du public dans ce cadre dans le cadre de cette application.
Mais c'est encore possible de le faire alors que l'application va être disponible en début de semaine prochaine. On a l'impression que tout est réglé finalement. On peut mettre en place cet arsenal juridique après finalement la mise en place de l'application Stop Covid selon vous ?
Rien n'empêche, et je parle sous le contrôle du sénateur Philippe Bas, rien n'empêche le législateur de se saisir de cette question quand bien même l'application a été lancée, et rien n'empêche également les juges, dans le cadre éventuellement de poursuites qui seraient lancées, ou d'une QPC, de trancher cette question.
Alors on va justement poser la question à Philippe Bas, président du comité de suivi de l'état d'urgence sanitaire. Monsieur Bas, pourquoi cette question législative, évidemment, qui est inhérente au lancement de l'application Stop Covid, n'a pas été tranché avant même le lancement de l'application?
Mais en vérité, le Parlement n'a cessé d'intervenir dans ce dossier. Mais la loi, elle est déjà votée. C'est la loi qui permet l'application en France du règlement européen sur la protection des données. C'est la loi qui définit les compétences de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette commission est intervenue. Le Parlement est intervenu non seulement parce que nous avons auditionné de multiples experts, personnalités, deux fois le secrétaire d'État lui-même, mais aussi parce qu'il y a eu un vote au Parlement. Mais la mise en œuvre de cette application, elle relève d'un encadrement qui est prévu par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour appliquer tout ce que nous avons déjà écrit dans la loi. Je crois qu'il faut quand même qu'on fasse extrêmement attention à ne pas mélanger les choses. Cette application, elle pose des problèmes que toutes les autres applications posent aussi. La crainte qu'on puisse accéder à vos données personnelles, elle existe pour toutes les applications que vous ne cessez chaque jour.
Oui, mais cette application est quand même vantée par l'exécutif, elle est censée lutter contre la pandémie de coronavirus, c'est un petit peu différent de beaucoup d'autres applications.
Mais précisément, le luxe de précautions qui sont prises, je ne suis pas en train de défendre le sujet parce que j'ai conscience aussi des difficultés, mais le luxe de précautions qui sont prises est lui aussi tout à fait exceptionnel.
Mais qu'est-ce que vous répondez justement aux inquiétudes évoquées par Éric Filliol du fait que voilà, ce soit les géants de l'informatique, Google et Apple, qui hébergent cette application et qui récupèrent des données?
Je réponds que je partage ces inquiétudes et cela fait partie des questions que nous n'avons cessé de poser au gouvernement. Mais nous avons eu à rechercher le bon équilibre entre la protection des données personnelles, qui est un principe essentiel, et les nécessités de la lutte contre une épidémie qui a déjà fait 30 000 morts en France et plusieurs centaines de milliers dans le pays. Et nous nous sommes dit, parce que nous ne sommes pas des informaticiens ni des cryptologues, que différentes garanties qui ont été apportées, exigées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans plusieurs avis, deux qui ont été tous les deux rendus publics, ont fait progresser le dispositif par rapport aux mécanismes initiaux. Tout de même, il y a volontariat, anonymat, possibilité à tout moment de défaire l'application, la conservation des données pendant 15 jours seulement, et le fait que les données qui circulent ne sont pas des données sur votre santé. La seule chose à laquelle un serveur central accède pour faciliter ou permettre au dispositif de fonctionner, c'est un identifiant qui est une sorte de pseudonyme et qui change sans arrêt. Alors, naturellement, et comme ça a été très justement dit tout à l'heure par M. Figuel, il n'y a aucun système qui offre des garanties absolues. Mais je dirais que celui-là, compte tenu en effet de sa sensibilité très grande, offre beaucoup plus de garanties que les applications que vous ne cessez de télécharger sur votre smartphone ou quand vous faites des achats, les conditions que vous acceptez sans y penser pratiquement, mais il est obligatoire de vous poser la question parce que vous voulez aller vite et régler votre problème immédiatement. Là, au contraire, c'est un dispositif qui a fait l'objet, malgré tout, dans une grande transparence, de beaucoup de discussions. Entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il est sans risque, je suis convaincu qu'il en a, mais Ma conviction, c'est aussi que ces risques ont été plus mesurés que pour n'importe quelle autre application avec beaucoup plus de sécurité.
On a bien compris, Philippe Bas. Éric Filliol, en écho justement à ce que vient de nous dire le président du comité de suivi de l'état d'urgence sanitaire en France, que vous inspire le feu vert de la CNIL, hein, finalement la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à cette application Stop Covid? Certes, un feu vert avec des réserves, mais un feu vert toutefois. Qu'en pensez-vous, justement, vous qui étiez justement très, très vigilant sur cette question d'une possible récupération des données à travers l'application?
De toute façon, je partage entièrement ce que le sénateur Philippe a dit, c'est que on peut pas avoir peur d'une application comme Stop Covid et télécharger tout et n'importe quoi par ailleurs, parce que c'est effectivement pire. Et il y a peut-être un problème de formation, de sensibilisation des choses. Ce qui me gêne quand même, c'est qu'on soit aussi dépendant, et c'est un problème de souveraineté, de notre pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas maintenant bouger dans le domaine numérique, sans passer par les gens américains. C'est plutôt gênant. Donc maintenant, je pense que l'avis de la CNIL, il faut quand même voir le contexte psychologique. On a quand même un peu, au lieu de sensibiliser et de responsabiliser les gens, on les a terrorisés. Donc, si vous voulez, on a créé un climat, et ça, moi, je retrouve tout ce qu'on m'a enseigné à l'OTAN avec ce qu'on appelle les opérations de l'information. Comment vouliez-vous que la CNIL se porte en faux dans un contexte pareil? Je veux dire, effectivement, le sénateur Bas a tout à fait raison, c'est que on y a une hypersensibilisation, et j'hésite pas à dire, on a terrorisé les gens. Donc, si vous voulez, allez, mettez-vous à la place de la CNIL, elle va pas pouvoir se mettre alors qu'elle devrait peut-être être plus vigilante et peut-être encore plus... je veux dire critique, le contexte fait que ça, elle a pas tâche facile. Mais il faut souligner, je suis entièrement d'accord que c'est sur le protocole cryptographique. Et je fais le distinguo avec l'application en elle-même et son environnement dans le téléphone. C'est bien plus sécurisé au niveau du protocole que ce que l'on peut voir dans la nature. Hein, ça, c'est clair.
RFI. Notre débat ce soir sur RFI consacré à l'application Stop Covid qui devrait être téléchargeable à partir de mardi prochain en France dans le cadre de la deuxième phase du déconfinement, application qui permet d'identifier les personnes ayant pu être en contact avec un malade du coronavirus et qui soulève de nombreuses questions d'éthique. On en parle depuis 20 minutes maintenant avec nos trois invités. Je voudrais vous faire écouter à présent un court extrait du discours mercredi à l'Assemblée nationale de celui qui porte le projet Stop Covid. C'est le secrétaire d'État en charge du numérique, Cédric O, et messieurs, vous réagirez à ces propos.
C'est un projet qui répond à une crise historique sans laquelle il n'existerait pas et au-delà de laquelle il n'existera pas, la crise du Covid-19. La politique, le droit, la vie, tout est affaire de proportionnalité. Ce qui compte, c'est l'équilibre et cette question qui est en balance. Quel plus gros risque sanitaire, social, économique, voire démocratique que la perspective d'un reconfinement?
Voilà, Cédric O, secrétaire d'État en charge du numérique, qui finalement, face aux questions de liberté, répond crise sanitaire, risque d'un nouveau confinement en France. Qu'est-ce que ça vous inspire, Éric Filliol, en quelques mots?
Écoutez, quand je parlais de terroriser, voilà, ça, on nous agite le spectre d'un second confinement, alors que je pense que c'est plutôt un problème de masque, un problème de test, et surtout, je pense que naturellement, faire confiance, si vous voulez, aux Français, dont on a montré que le bon sens et l'esprit de responsabilité avaient quand même considérablement marché. Ça m'inspire d'ailleurs, je suis désolé, mais ça m'inspire une phrase d'un humoriste dont je ne retrouve pas le nom, qui dit « Le gouvernement voudrait que les gens soient intelligents, mais ils passent leur temps à les prendre pour des cons ». Si vous voulez, on ne peut pas terroriser les gens et la question, à la limite, il faut aller voir plus loin que le débat. Une fois que vous avez admis le principe d'une surveillance pour des bonnes raisons, eh ben, vous avez accepté le principe. Après, vous ferez comme en Chine, peu à peu, vous en discuterez les modalités. Est-ce qu'il faut perdre notre humanité, même face à une crise pareille? Est-ce qu'il faut perdre notre humanité et surtout ce qui fait l'identité de l'Europe, notre liberté? Si on veut être demain être en Chine, eh ben on commence par accepter ça, puis ça, puis un jour, ben on se rend compte qu'on est en mode chinois. C'est un problème philosophique.
On va évoquer ces questions philosophiques, mais avant cela, parce qu'au début de l'émission, Philippe Bas évoquait le fait que cette application se fasse sur la base du volontariat. On ne sera pas obligé de la télécharger, et c'est ce qui peut rendre moins efficace justement ce procédé pour remonter le fil des personnes ayant pu être en contact avec un malade du coronavirus. Kamel Agi, doctorant en droit à Panthéon, Paris 2, Assas, est-ce qu'il aurait fallu rendre obligatoire cette application? Est-ce que juridiquement c'est possible?
Alors, je ne pense pas qu'il aurait fallu rendre cette application obligatoire. Je pense de toute façon que, au vu du contexte de défiance qui s'exprime à l'égard du gouvernement et à l'égard des outils numériques, sans parler de la défiance persistante à l'égard des acteurs américains, des GAFAM, je pense qu'il aurait été complètement illusoire d'imposer l'utilisation de cette application. On voit que ça existe dans d'autres pays, ça renforce l'efficacité du système, mais ça a aussi beaucoup de conséquences en matière de protection de la vie privée et des conséquences assez graves. Je pense en particulier aux pays d'Asie du Sud-Est où l'utilisation de l'application est obligatoire et où elle conduit à une société de la discipline où les voisins se mettent à surveiller les faits et gestes de chacun.
Oui, la Chine, comme disait Eric Filliol.
Oui, pas que la Chine. À pouvoir accéder aux informations médicales des uns et des autres. Je pense qu'il y a quelque chose de légitime dans la crainte qui est exprimée par les concitoyens. Effectivement, le gouvernement a pris toutes les mesures et a essayé de recueillir un maximum d'avis et d'opinions pour sécuriser un maximum, à la fois au plan technique et au plan juridique, cette application. Mais je pense aussi qu'on ne peut pas appliquer le droit positif à une situation exceptionnelle et à une application qui est exceptionnelle. Je pense que là aussi, encore une fois, il y a un devoir fiduciaire. Je pense à la théorie développée par un professeur américain qui s'appelle Jack Balkin, qui considère que lorsque nos relations reposent sur la divulgation des données, alors il y a un enjeu de confiance et alors les deux parties doivent trouver un équilibre dans leurs relations. Et dans notre cas, le gouvernement doit faire tout ce qu'il faut, doit prendre toutes les mesures pour assurer à la fois la protection des données et pour rassurer les citoyens sur la loyauté de l'application, la loyauté du gouvernement à l'égard de l'utilisation de ces données. Donc je pense que le caractère obligatoire n'est évidemment pas une bonne idée et on ne peut pas préjuger de l'avenir non plus. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, on pourrait penser que l'utilisation, non pas d'une application, mais peut-être d'un bracelet, deviendrait obligatoire. Et alors là, d'autres questions viendraient à se poser et l'intervention soit du législateur, soit du juge serait pertinente.
Oui, parce que dans les détracteurs de Stop Covid, on dit voilà, c'est un bracelet électronique, justement, c'est évoqué.
Oui,
ça.
Oui, bien sûr. Je pense même que Cédric Lou, si je me rappelle de son intervention, a évoqué l'idée de développer certains outils de type bracelet pour permettre aux personnes qui n'ont pas de smartphone, qui n'ont pas d'accès à Internet ou qui vivent dans des zones un peu reculées, de pouvoir profiter du bénéfice de ce suivi et de ce traçage.
C'est effectivement un débat philosophique, comme le dit Eric Filliol, finalement, la mise en place de cette application Stop Covid. Philippe Bas, en quelques mots, justement, à propos des risques en termes de liberté publique qui étaient soulevés par Kamel Agi, la dénonciation, la stigmatisation, on appelle cela le vigilantisme numérique. Est-ce que finalement, c'est un symbole de l'évolution de notre société, selon vous ?
Ben, je crois que c'est indispensable. Plus il y a d'enjeux en termes de restrictions à nos libertés, plus il faut qu'il y ait dans la société des voix qui s'élèvent pour empêcher le pouvoir d'abuser de son pouvoir. Et la société, au fond, elle est de plus en plus exigeante à cet égard, alors même que les pratiques individuelles sont parfois de plus en plus laxistes. Moi, j'ai écouté Cédrico, le secrétaire d'État, vous avez rappelé ce qu'il a dit devant le Parlement. Je crois que Stop Covid est mal nommé.
Ce sera votre conclusion, rapidement, hein. C'est nos dernières secondes.
Ça ne stoppera pas le Covid, c'est une force d'appoint, et tout ce qui est chantage au reconfinement nous ferait renoncer à la protection de nos libertés au nom de l'intérêt supérieur de la santé, ça, c'est inacceptable. En revanche, dire, ben, on a fait toutes les garanties qu'on pouvait imaginer, une instance indépendante pour surveiller, on a défendu la souveraineté numérique en refusant le système allemand qui passe sous les fourches codines des GAFA, tout ceci, ça me paraît effectivement très important de le dire à nos concitoyens pour qu'ils sachent qu'il y a des précautions qui sont prises.
Eh bien, merci Philippe Bas, président du comité de suivi de l'état d'urgence sanitaire. Merci Eric Filliol, expert en cryptologie et virologie. Et Kamel Agi, notre troisième invité, doctorant en droit à Panthéon Paris 2. Ah ça, c'est la fin déjà de ce débat sur RFI. Happy birthday, Didier.